Il est 7h.
Le rapport de l'IGPN était un rapport rédigé à la hâte et ressemblait un peu à une commande.
Nouvel élément après le premier rapport de l'IGPN sur la mort de Steve Maya Canisso lors de la fête de la musique à Nantes il y a 2 ans. La chute du jeune homme dans la Loire a bien eu lieu au moment de l'intervention de la police. Les régionales J-2, d'ores et déjà La République En Marche se prépare. Un casse-tête dimanche, région par région. Le 12e homme demain à Budapest, il s'appelle Loïc Négo, joueur français naturalisé hongrois. Il affrontera donc les Bleus demain pour leur 2e match de l'Euro. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international, Vincent Hervouet.
Oui, la présidentielle aujourd'hui en Iran, sans participation, sans suspense et sans illusion, les conservateurs verrouillent.
À 7h20, on va retrouver Virginie Fulpin pour l'édito sport.
Et il n'y a pas que le foot dans la vie, l'euro, c'est aussi l'euro de basket au féminin, ça a commencé hier en fanfare pour les Bleus.
Et juste avant 7h30, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'était dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, la disparition d'un jeune homme de 24 ans à Nantes, après la dispersion par les forces de l'ordre d'un rassemblement à l'occasion de la fête de la musique. Tombé dans la Loire, son corps sera retrouvé un mois plus tard. L'affaire, sur fond de dénonciation des pratiques policières liées au mouvement des Gilets jaunes, prend vite un tournant politique avec jusqu'alors un point clé. Un rapport de l'IGPN qui estimait qu'aucun élément ne permettait d'établir un lien direct entre la disparition de Steve Maya Canisso et l'intervention de la police.
Mais ça, c'était jusqu'à hier. Bonjour Charles Guyard.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nantes. De nouvelles conclusions, cette fois présentées par le procureur de la République de Rennes, viennent rebattre les cartes.
Oui, et tout repose sur une question d'horaire. Dans son rapport de juillet 2019, un mois après le drame, l'IGPN concluait que l'intervention des forces de l'ordre survenue entre 4h24 et 4h52 cette nuit-là n'avait pas pu provoquer la noyade de Steve puisque son portable était déjà inactif à 3h16, les enquêteurs s'appuyant alors sur la facture du téléphone. Or, l'expertise plus poussée de l'appareil dévoilée hier établit que celui-ci a cessé d'émettre à 4h33, donc au moment de la charge des policiers. Une nouvelle chronologie qui interroge l'avocate de la famille Maya Canisso, maître Cécile de Oliveira.
L'analyse de sa facturation détaillée permettait de voir quel était le dernier message émis. Ce n'était absolument pas la question qu'il fallait se poser. Le rapport de l'IGPN était un rapport rédigé à la hâte et ressemblait un peu à une commande qui visait peut-être à démontrer une absence de lien entre la mort tragique de Steve Maya Canisso et l'intervention policière. C'est le Premier ministre lui-même qui en avait donné connaissance en présence du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, très officiellement.
Reste une ultime zone d'ombre dans laquelle la défense pourrait s'engouffrer. C'est l'endroit précis de la chute, la géolocalisation du téléphone s'avérant techniquement impossible.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. 8 personnes physiques et morales, dont le commissaire chargé de l'intervention cette nuit-là, ainsi que le préfet et la maire de Nantes, sont convoquées pour le mois prochain. Convocation qui pourrait aboutir à des mises en examen. 10 ans de prison, mais la qualification terroriste écartée, la condamnation hier devant la cour d'assises spéciale de Paris de l'homme qui a fourni la Kalachnikov au tueur de Xavier Jugelet, ce policier assassiné sur les Champs-Élysées en avril 2017.
3 et 1 qui font 4 après le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Jean Castex aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine.
Ou comment la majorité espère offrir un coup de projecteur à des candidats pas franchement en bonne posture alors que se tient dimanche le premier tour des régionales. Un scrutin dont les résultats seront étudiés à la loupe par l'état-major de La République En Marche et très vite, il faudra sans doute aussi faire des choix, Aurélie Herbemont.
On va faire de la dentelle x12, confie un dirigeant en clair, une stratégie par région. Dimanche soir, l'état-major macroniste regardera 3 éléments. Ses propres scores, potentiellement très disparates, à 10, 15 ou 20% selon les régions, l'ampleur de la vague RN et le rapport de force entre extrême droite et listes capables de faire barrage. Un ministre est formel, il faudra se retirer là où il y a un risque RN pour éviter tout péché originel. Il le rappelle car ce n'est pas une évidence. Exemple dans les Hauts-de-France où des marcheurs plaident pour le maintien. Si Xavier Bertrand refuse de fusionner, les fusions techniques, c'est une option poussée par plusieurs conseillers du chef de l'État, gauche, droite et Macronie, contre le RN en PACA par exemple. Encore faut-il tous être d'accord. Autre cas de figure qu'il faudra trancher, la Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui PS, est menacée par le RN. Ce sera l'heure de vérité, glisse un marcheur. On verra si on penche à droite, à gauche ou à droite. et à gauche.
Et incertitude aussi sur la participation. Un baromètre pour le quotidien Les Échos ce matin assure que 38% des électeurs pourraient se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche. Autre chiffre dévoilé hier, cette fois par Santé publique France, 41,9% comme le taux de personnel en EHPAD totalement vacciné, insuffisant pour le ministre de la Santé qui menace de rendre obligatoire la vaccination pour ses soignants.
Comme l'a fait le Royaume-Uni, hein, une idée diversement accueillie, c'est un euphémisme. Florence, aide-soignante dans un EHPAD, elle y est, elle, favorable.
On travaille avec des publics qui peuvent être fragilisés par la maladie, qui ont des pathologies, qui ont des comorbidités, qui les rendent plus fragiles justement. Donc c'est aussi par nous que passe la protection. Quand on rentre en école d'aide-soignante ou d'infirmière, on nous demande que nos vaccinations soient à jour et on vérifie avant même d'entrer à l'école que toutes les vaccinations obligatoires sont faites avec l'hépatite B. À partir du moment où on a accepté ce deal, quand on est entré en école de soignants, ça veut dire qu'on l'a accepté pour tout le long de notre carrière. On a accepté de se protéger et de protéger les patients et les résidents dont on aura la prise en soin en fait, entre nos mains.
Florence, aide-soignante en EHPAD, jointe par Diane Berger pour Europe 1. Eux sont fermés depuis 15 mois. Les professionnels du monde de la nuit ont rendez-vous lundi avec Emmanuel Macron. Il sera question du protocole de réouverture des discothèques avec possible passe sanitaire et masque pour danser. On va y revenir tout à l'heure dans le journal de 7h30. Emmanuel Macron qui commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin 40 avant de s'envoler pour Berlin. Dîner de travail avec Angela Merkel pour préparer le Conseil européen de la semaine prochaine.
7h06 sur Europe 1. Le retour hier de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Accueil triomphal pour l'ancien président acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale.
Où il avait été transféré à La Haye donc il y a 10 ans pour crime contre l'humanité après son refus de reconnaître sa défaite électorale provoquant de graves troubles et la mort de 3000 personnes. Son adversaire d'alors, Alassane Ouattara, est toujours au pouvoir mais ses proches l'assurent, il revient sans esprit de vengeance. Reportage à Abidjan du correspondant d'Europe 1, François Hume.
16h15, sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'avion du vol SN-299 de la compagnie Brussels Airlines se pose sur la piste. Et déjà les premières explosions de joie de la part des partisans de Gbagbo accrédités pour l'occasion. Lorsqu'il apparaît au loin, tout le personnel de l'aéroport cesse le travail. Contrôleur aérien, bagagiste, pompier forment une haie d'honneur pour l'accueillir. Un de ses supporters explique cette joie collective.
Parce que celui qui nous a montré le chemin, celui qu'on a marginalisé, celui qu'on a cru coupable de certaines choses qui étaient fausses, revient. Depuis 5h, 4h, nous étions sur pied. Et voilà que l'avion vient d'arriver. Nous sommes très heureux.
Laurent Gbagbo a toujours des adversaires, mais pour bon nombre d'Ivoiriens, il est devenu une icône comparée à Nelson Mandela. Le pouvoir ivoirien, gêné de voir un opposant revenir sous les hurrahs de la foule, a tenté toute la journée d'empêcher les rassemblements devant l'aéroport.
Nous partons accueillir l'idole du pays et en cours de route, la police et la gendarmerie sont en train de lancer des lacrymogènes.
Gbagbo a finalement pu se rendre au siège de son parti. « Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique », a-t-il dit devant les cadres de son parti. À Abidjan, François Imferkataji pour Europe 1.
À l'étranger, toujours ce nouvel accro dans la trêve au Proche-Orient. Bombardement israélien hier contre des cibles du Hamas à Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël. Et puis en Iran, élection présidentielle aujourd'hui qui devrait consacrer l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. On sera sur place à Téhéran dans le journal de 8h.
Et on va en parler aussi avec Vincent Hervouet, le regard international dans moins de 10 minutes maintenant. Aux États-Unis, un nouveau jour férié fédéral. Ce sera demain, le 19 juin, qui célébrera désormais la fin de l'esclavage. Joe Biden a promulgué hier la loi dont s'est félicitée sa vice-présidente Kamala Harris.
Comme nous l'avons fait il y a quelques semaines avec l'histoire du massacre de Tulsa, nous devons apprendre de notre histoire. Et nous devons enseigner notre histoire à nos enfants. Parce que cela fait partie de notre histoire en tant que nation. Cela fait partie de l'histoire américaine.
La vice-présidente américaine Kamala Harris, hier soir. Un moment fort hier au Danemark dans le cadre de l'Euro de football. C'était à la 10e minute du match entre les Danois et les Belges. Tout un stade, le stade de Copenhague, qui applaudit en hommage à Christian Eriksen, hospitalisé à moins d'un kilomètre de la vol d'oiseau, le joueur terrassé le week-end dernier par un malaise cardiaque. Hommage pendant de longues minutes. À la fin, le Danemark, qui menait à ce moment-là, a fini par s'incliner 2-1. La Belgique a donc décroché son ticket pour les huitièmes de finale, tout comme les Pays-Bas de leur côté, tombeurs de l'Autriche 2-0.
La France, elle, jouera demain à 15h, vous le savez, vous l'attendez, contre la Hongrie. Des Français puisqu'ils ne seront pas 11 sur le terrain, mais 12. Oui, du côté de la sélection hongroise, l'un des défenseurs est français d'origine, il s'appelle Loïc Négo. Écoutez son portrait, signé Simon Rubin.
Drôle de retrouvaille pour le défenseur de la Hongrie, Loïc Négo. Lui, le natif de Paris, sacré champion d'Europe des jeunes avec l'équipe de France en 2010. À l'époque, il portait le maillot bleu aux côtés d'Antoine Griezmann. Parti très jeune pour l'Italie, le Français n'a pas confirmé son potentiel. Sa carrière bifurque alors. En 2013, direction un club hongrois. Et il se bâtit une solide réputation dans le club de Székesfehérvár, non loin de Budapest. Naturalisé hongrois, il a choisi de changer de sélection l'an passé.
C'était un choix aussi avec le cœur. Je savais que l'opportunité pour moi de jouer en équipe de France était de 0%. J'ai sauté sur l'occasion qui m'a été offerte et aujourd'hui je suis très content.
Alors il le reconnaît, il y aura bien sûr un peu de stress mais surtout l'envie de montrer que malgré un parcours chaotique, le défenseur formé à Nantes a su se retrouver. Aujourd'hui, c'est tout pour la Hongrie, assure-t-il. Et demain, il jouera devant 68 000 personnes, devant son public de Budapest.
Simon Rubin à Budapest pour Europe 1 et dans leur préparation, les Bleus dont Kingsley Coman s'est séparé, en tout cas provisoirement, le temps d'assister à la naissance de son enfant.
Oh, comme c'est mignon, un petit carnet rose derrière le carnet bleu.
Exactement. Si je veux
dire, merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h11.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le tête-à-tête Europe Matin avec le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David. Du rêve à la prise de conscience. Le rêve, c'est cette exposition Revivre, lunettes de réalité augmentée. Vous allez pouvoir rencontrer, voir des espèces complètement disparues. La prise de conscience, c'est bien sûr l'extinction de masse qui nous guette. C'est ce qu'il dit, de quoi réfléchir sur ce qui nous émerveille. Respiration avec Bruno David à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
L'industrie automobile qui accélère de manière spectaculaire dans la voiture électrique, mais question rentabilité, c'est pas encore ça.
Juste avant le regard international de Vincent Hervouet, nous allons parler de l'Iran. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La révolution de la voiture électrique n'en est qu'à ses débuts et comme toutes les révolutions, celle-ci réserve son lot de surprises.
Oui, chaque année, c'est d'ailleurs très attendu, le cabinet Alix Partners dévoile une grande étude mondiale sur l'avenir de l'industrie automobile, les consultants passent en revue tout ce qu'il y a dans les cartons des grands constructeurs de la planète. Alors ça nous donne une vision de l'avenir qui est à la fois précise parce qu'elle s'appuie sur des projets concrets des fabricants et passionnante car cette industrie est en pleine ébullition.
Alors ce qui frappe peut-être le plus, c'est la profusion de nouveaux modèles qui arrivent sur le marché.
Oui, ça donne en effet la mesure de cette révolution. En 2020, les 25 plus grands constructeurs mondiaux proposaient déjà 330 modèles de voitures rechargeables, c'est-à-dire 60% électriques, soit hybrides. En 2023, ce n'est pas de la fiction, c'est ce qu'il y a réellement dans les cartons. Nous en serons à 535 modèles. L'embarras du choix. Autre mesure de cette révolution, les constructeurs prévoient d'investir 330 milliards d'euros dans les voitures à batterie dans les 5 prochaines années. Imaginez, c'est l'équivalent de plus de 15% du PIB de la France.
Or, ces investissements ne sont toujours pas rentables.
Eh bien, c'est tout le problème de cette phase de transition que vit l'industrie automobile, contrainte d'investir donc des sommes folles dans cette technologie aux marges faibles, voire nulles, et qui dépendent de la générosité des États. Une citadine électrique coûte en moyenne 8000 euros de plus qu'une voiture thermique équivalente. Les subventions sont donc encore indispensables, mais elles ne dureront pas éternellement, surtout après la crise du Covid qui a asséché les caisses des États. Il faut aussi que les infrastructures de recharge suivent. Or, ça n'est pas le cas. On estime qu'il faut une borne pour 10 voitures électriques en circulation, mais on est déjà au-delà en Europe et aux États-Unis, selon les calculs d'Alix Partners. Ça veut dire encore d'autres investissements lourds. Vous le disiez, la révolution électrique n'en est qu'à ses débuts. Mais vu les dépenses engagées par les constructeurs, plus rien ne pourra l'arrêter.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15. Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Présidentielle aujourd'hui en Iran, le régime s'attend à une participation très faible.
C'est vendredi, les Iraniens iront aujourd'hui à la mosquée, mais pas au bureau de vote. Comme quoi, on peut se mettre volontiers à genoux, mais refuser de se faire marcher dessus. L'élection présidentielle est jouée, à quoi bon aller voter ? C'est Raïssi qui sera élu. Ebrahim Raïssi, 82 ans, dont la moitié a traqué, jugé, pendre les ennemis de la République islamique. Il n'y a rien de pire en dictature que la magistrature. Ebrahim Raïssi a fait une carrière éclatante. Dans les années 80, il s'est couvert du sang des royalistes et des moudjahidines du peuple, les opposants massacrés par dizaines de milliers. Ensuite, il a couvert toutes les injustices de la justice iranienne jusqu'à en devenir le chef, procureur adjoint, procureur général, procureur d'Iran, chef de l'autorité judiciaire.
Il y a 5 ans, il s'était déjà présenté à la présidentielle.
Le peuple lui a préféré Hassan Rouhani, le président sortant. Le peuple a des circonstances atténuantes. Il a cru à l'accord sur le nucléaire, au retour des pétrodollars, à l'ouverture. Rien ne s'est passé comme prévu. Raïssi, lui, n'y a jamais cru. C'est un radical. Ce soir, il aura sa revanche. Le Conseil des gardiens de la Constitution a interdit à tous ses adversaires de se présenter. Le peuple n'a plus voix au chapitre en Iran. Cette élection n'est pas seulement celle d'un apparatchik fermé à toute idée de réforme. Le processus lui-même est verrouillé comme les portes de la prison d'Evin. Et ça, c'est nouveau. Avant, il y avait une part d'incertitude dans les élections. Il y a même eu des surprises. Il y a eu aussi des révoltes. Et à chaque fois, les experts espéraient le thermidor de la révolution iranienne. Eh bien, plus maintenant. Les Iraniens sont désenchantés. Les experts discrédités, fin des illusions.
Est-ce qu'on peut dire, Vincent, que le guide suprême Ali Khamenei nomme un de ses proches à la présidence ?
Ebrahim Raïssi est son protégé. Il fait partie de l'assemblée des experts qui désignera le successeur. On dit Khamenei épuisé, Raïssi est l'héritier. Les gardiens de la révolution le soutiennent. La présidence complétera son apprentissage. Les seuls à garder des illusions sont les Américains qui croient possible de négocier la fin de la course au nucléaire et puis le contrôle des missiles balistiques et en prime la fin des milices chiites alentour. Avec Raïssi, ça paraît condamné d'avance.
Vincent Hervouet, Le Regard International, tous les matins sur Europe 1. Merci Vincent. Il est 7h18 et dans un instant, tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin. Puis nous allons retrouver Stéphane Bern avec un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu. Faire la nique, d'où ça vient cette expression ?
La réponse dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous allez nous parler d'un euro où la France est favorite. Mais ça n'est pas du foot et c'est du sport au féminin. L'euro de basket qui a commencé hier chez nous, hein, en France et en Espagne aussi, il faut le souligner quand même. Les Bleus ont battu la Croatie 105 à 63 à Strasbourg. Pour vous, il ne faut pas qu'on oublie ces Bleus-là.
Bah vous savez, le sport au féminin, c'est toujours une chanson de France Gall.
Résiste.
On se croirait avec Bertrand Chameroy.
Voilà, c'est un peu ça. En permanence, vous savez, elles doivent en faire plus pour prouver qu'elles ont leur place. Mais alors quand, en plus, les dates de l'Euro des basketteuses coïncident avec celles de l'Euro des footballeurs, là, ça devient mission impossible pour se faire une place au soleil. Allez, défi relevé. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Et notre équipe de France de basket a beaucoup d'atouts pour sortir de cette ombre envahissante. Suivez ces Bleus au ballon orange. Ne soyez pas ces résistants de la dernière heure qui les applaudiront quand elles seront championnes d'Europe sans vous y être intéressés avant. Hein. Il y a tellement de raisons de les soutenir. Déjà, cet euro se passe en partie dans notre pays, vous l'avez dit. Les Françaises jouent leur match de poule à Strasbourg. C'est en public, 3600 personnes hier soir dans les tribunes. C'est comme une renaissance pour les sports de salle, si fragilisés par la crise sanitaire. Ouais. Bon, alors on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a quand même toujours cette ombre du Covid qui plane sur la compétition. Regardez les Espagnols, leur meilleure joueuse, Alba Torrens, une des stars du basket européen, a été testée positive et ne participe pas à cet euro. Donc vous voyez, cette compétition balance entre ombre et lumière. Alors faisons la pencher du bon côté.
Mais alors soulignons-le, en plus, les basketteuses française vise la médaille d'or dans cet euro.
Bah, le basket français fait partie des meilleurs d'Europe, ça on le sait. La démonstration 105 à 63 hier contre la Croatie le prouve encore. Mais lors des 4 derniers euros, les Bleus ont perdu en finale et elles n'ont pas été sacrées depuis le 2009. Il serait temps de briser cette malédiction. Elles ont gagné tous leurs matchs de préparation et sont craintes dans tout le continent. Il manque plus que ce sacre final pour qu'on arrête de les voir comme des romantiques au beau jeu, mais comme la version basket de la culture de la gang de Didier Deschamps et de ses joueurs. Ouais, pour sortir de l'ombre du foot, c'est toujours bien de s'y mesurer. Et puis cet euro, c'est la première partie d'un été infernal pour les basketteuses. Juste après, elles s'envoleront pour les Jeux de Tokyo. Un vrai défi mental et physique. Elles sont résistantes, faisant leur confiance. Mais allez, donnons-leur aussi un petit peu de force.
C'est signé Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins. À retrouver bien sûr sur europe1.fr. Il est 7h22 et Stéphane Bern est avec nous avec un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand en sport, le score est finalement à l'avantage de l'outsider, quand on se moque de façon particulièrement insolente ou quand on nargue avec insistance, on dit « faire la nique ». Mais d'où vient cette expression ?
Ah oui, on fait un pied de nez aussi, ça c'est une façon plus polie de dire la même chose. Mais d'ailleurs, si on utilise aujourd'hui « faire la nique », c'est un peu vulgaire. Est-ce que c'était le cas à l'origine ?
Totalement. Ça l'est et ça l'a toujours été, Mathieu. Le mot vient de l'arabe « nika » avec un « k » et un « h » qui signifie « acte sexuel marital ». Ça donnera chez nous « forniquer ». Alors que « niquer » au XVe siècle signifie « rouler dans la farine », »,« tromper ». Notez également qu'en germanique, on dit « nicken ». Mais là, ça veut dire faire un signe agressif de la tête. Et c'est vrai que quand on fait la nique, on se moque ouvertement de quelqu'un de façon provocante. Charles VI, qu'on a baptisé tardivement le fou, a fait battre monnaie en 1421 d'une pièce qu'on a appelée les niquets et les petits niquets. Ce fut fait en accord avec Henri V, roi d'Angleterre, pour contrarier la politique monétaire du dauphin Charles VII. Lui faire la nique, en quelque sorte. Et c'est vrai que la pièce avait tellement peu de valeur que les gens qui la possédaient avaient l'impression de s'être fait avoir. Pour être totalement complet sur le sujet, au jeu de dés, quand on fait exactement le score que l'on a annoncé, on dit aussi faire la nique à ses adversaires. Voilà. Terminons en compagnie des Italiens. Là-bas, les esprits s'échauffent rapidement et on utilise l'expression « far la fica » qui veut dire « faire la figue ». Ça veut aussi dire « défier avec insistance » et même si c'est un geste obscène qui évoque l'intimité des dames pour exprimer de la colère, je trouve que comme nous sommes en juin, faire la figue au moins, eh ben c'est un fruit de saison.
Et à 16h, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, pour la 200e, on réunit Coluche dont on commémore les 35 ans de sa disparition, puis un autre clown, lui aussi un vrai et l'un des tout premiers clowns, Joseph Grimaldi, dont Charles Dickens a raconté la vie, et le président russe Boris Yeltsin. Leur point commun, bah, ils ont un gros nez rouge, même si le troisième, en fait, n'était pas clown. Mais ça, vous l'avez deviné.
À tout à l'heure, 16h. 7h25 sur Europe 1, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal avec Sophie Echen à 7h30. À tout de suite. Mon cher Laurent Cabrol,
ouais.
Est-ce que ça se calme un peu ?
Ça se calme un peu.
Un peu.
Mais pas, c'est pas la fin. C'est pas la fin des orages. Alors vous dites impair, orne t'impair. Vous êtes devant votre armoire, chers amis, vous voyez d'impair en orne t'impair.
Ah, imperméable, j'ai cru que vous étiez sur les numéros pairs ou impairs.
Non.
Les départements numéro pair auront de l'orage, pardon.
Ah, mais parapluie en notre parapluie. Si vous êtes en train d'hésiter, autrement dit, bon, vous vous demandez, eh ben moi aussi j'hésite. Je ne sais pas. Vous dites s'il commence lui aussi à hésiter, où va-t-on ? Bon, alors je vais vous donner quelques certitudes tout de même. Sur la Normandie, les pluies sont fréquentes. Sur la Vendée, le Poitou-Charente, l'Anjou, l'Ille-et-Vilaine, les pluies vont s'estomper. Sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, nous aurons un temps de plus en plus agité. La région parisienne, cela risque d'y avoir des orages isolés, mais ils seront là entre deux périodes de soleil, comme sur la Bourgogne, le Massif central, la Franche-Comté. En Lorraine, en Alsace surtout, va faire très chaud. À Lyon, va faire très chaud, 33-34. Ça, voilà, ce sont des certitudes. Puis nous allons vers des éclaircies dans le sud-ouest, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Les éclaircies ne seront pas trop mal. Bon, autrement dit, j'ai presque tout cité, presque toute la France, et j'ai des quasi-certitudes, mais pas tout à fait. Alors, les températures vont baisser, ça on le sait maintenant, 23 à Nantes, 24 à Poitiers, 26 à Blois, 27 à Paris, 28 à Toulouse, ça c'est une bonne nouvelle. Demain, ce sera samedi, et ce samedi, de nouveaux orages arriveront par l'Atlantique et traverseront la France durant la journée de dimanche, voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
On va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les clubs de plage de l'été, etc. et pas dans les discothèques. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Le coup de gueule des gérants de boîtes de nuit après plus d'un an de fermeture. Ils vont enfin pouvoir rouvrir en juillet, mais avec des consignes sanitaires qu'ils trouvent trop strictes.
Et on va en reparler plus légèrement après ce journal avec Bertrand Chameroy. Ce sera la touche âme.
Et dans ce journal aussi bientôt, un traitement français contre le Covid, un suppositoire mis au point par l'Institut Pasteur de Lille. À deux jours des régionales, en Bourgogne-Franche-Comté, le candidat du Rassemblement national tente de séduire les électeurs républicains. Et puis l'Euro, Hongrie-France demain à Budapest. Un match qui s'annonce déjà très bouillant.
Le tête-à-tête Europe Matin à 7h40 avec le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Dimanche, ce sera le premier tour des élections régionales, bien sûr, mais ce sera aussi le premier tour de chauffe de l'élection présidentielle.
Et puis juste avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit le directeur du département opinion de l'IFOP, le politologue Jérôme Fourquet. Très bon réveil à toutes et à tous. Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Ce sont les seuls établissements à ne jamais avoir ouvert depuis le tout premier confinement en mars 2020. Les discothèques vont enfin pouvoir accueillir à nouveau les amoureux de la nuit. Alors évidemment, il faudra s'adapter aux contraintes sanitaires et le gouvernement planche sur différentes options. Angèle Châtelier, ça pourrait se présenter comment ?
Eh bien, le plus probable, c'est que l'on soit obligé de présenter un pass sanitaire avant d'entrer en boîte de nuit. Mais pour les professionnels du secteur, c'est utopique. Personne ne viendra, nous disent-ils. Déjà parce que ce sont surtout les jeunes qui vont dans des clubs et seulement 8% des 18-29 ans sont totalement vaccinés. Impossible donc pour les autres d'aller danser ou déboter. Ils devront prévoir de faire un test antigénique avant leur soirée ou d'aller dans d'autres lieux festifs qui ne sont pas concernés par le pass sanitaire. C'est injuste donc pour Patrick Malves, président du syndicat des discothèques.
Donc on va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les restaurants ambiance musicale, faire la discothèque qui ne dit pas son nom, dans les clubs de plage de l'été, etc. et pas dans les discothèques. Et il faut arrêter de se moquer du monde.
Autre contrainte, celle du masque, il serait obligatoire pour danser. Et puis pour consommer, il faudra être assis, interdiction aussi d'aller dans les fumoirs qui seront fermés. Pour Thierry Fontaine, qui s'occupe de la branche nuit au syndicat hôtelier Lumi, eh bien c'est intenable.
Si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Enfin reste la question de la jauge. Elle serait limitée à 65% en juillet, puis 85% en août.
Angèle Châtelier, il sera question de tout cela lundi. Emmanuel Macron recevra les représentants du secteur.
Et c'est vrai que j'ai parlé de ce sujet en amorce de l'émission en jouant les Black Eyed Peas. Et je vois Bertrand Chameroy entrer en studio déjà. Comment on va reparler avec lui, ce sera plutôt
et
ça, je pense.
Oh là là.
Quelle ambiance.
Ce sera juste après le journal. Et en parallèle, sachez-le, le chef n'aurait jamais dû lui donner la parole. Le chef de l'État annonce un concert électro à l'Elysée le 21 juin, aussi le jour de la fête de la musique bien sûr, avec des têtes d'affiche Jean-Michel Jarre ou encore Céron que vous reconnaissez sans doute, Supernature. Concert assis, bien sûr, dans le respect des gestes barrières. 7h32.
Y aura-t-il bientôt un traitement contre le Covid ? En tout cas, l'Institut Pasteur de Lille va enfin pouvoir tester le sien. L'Agence nationale de sécurité du médicament vient de donner son feu vert. Des essais cliniques sur plus de 600 patients non vaccinés. Benoît Després est directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille.
Ce traitement, c'est le clofoxtol, principe actif, qui présentait une très forte activité contre le virus SARS-CoV-2 in vitro. Les patients sont des patients qui ont plus de 50 ans, qui ont des symptômes récents et qui sont positifs à la Covid, évidemment. C'est un traitement par suppositoire et il y a 10 suppositoires dans le traitement, 2 par jour pendant 5 jours. Ce médicament, il a été sur le marché pendant plus de 30 ans en France. Il est toujours disponible en Italie, qui est utilisé pour traiter des affections bactériennes. Le risque de survenue d'événements qui seraient inconnus est très, très, très faible. On attend une première analyse des résultats aux alentours du 15 septembre.
Benoît Després de l'Institut Pasteur de Lille avec Yasmina Katou. Les internes en médecine sont appelés à raccrocher leur blouse à partir d'aujourd'hui. Appel à la grève de l'intersyndicale pour réclamer un décompte officiel de leurs heures de travail. Une manifestation est prévue dans les rues de Paris demain.
Nous sommes à 2 jours du premier tour des élections régionales. Dernier jour de campagne aujourd'hui pour les candidats.
Et l'une des régions qui est scrutée de près, c'est la Bourgogne-Franche-Comté tenue par la gauche, mais où le candidat du Rassemblement national, Julien Odoul, pourrait l'emporter, et cela malgré les polémiques qui se succèdent. Claudia Bertram.
C'est l'un des meilleurs espoirs du RN, mais Julien Odoul est aussi rompu aux polémiques. Elles n'ont pas manqué durant la campagne. Divulgation d'un enregistrement où il fait de l'humour douteux sur le suicide des agriculteurs. Contestation en interne, appel d'un candidat de son propre camp à voter contre lui. Julien Odoul dénonce des boules puantes.
Certains ont essayé d'alimenter, d'orchestrer des polémiques qui sont évidemment montées de toutes pièces. Pour ne pas parler du fond, je fais campagne sur les propositions, sur le projet pour une région qui vous protège. Et c'est sur cela que je serai jugé.
Tout cela ne l'empêche pas de faire la course en tête au premier tour dans les sondages. Le second tour s'annonce serré face à la présidente sortante. La socialiste Marie-Guy Dufay peut espérer conserver la région si En Marche finit par se retirer ou la soutenir. Le candidat RN tente donc de séduire l'électorat de la droite.
J'appelle les électeurs LR à voter utile. J'appelle au sursaut pour faire barrage à la gauche, pour faire barrage à Macron. Je suis le seul, dans cette élection, à pouvoir battre la candidate sortante. Je suis le seul à pouvoir battre la gauche.
Le parti mise sur lui tout en étant conscient qu'en cas de victoire, il pourrait être incontrôlable. Un cadre le dit, tout le monde a en tête qu'il faut le surveiller.
Claudia Bertram, le premier tour des élections qui pourrait être marqué par un taux d'abstention record entre 59 et 64% selon un sondage publié hier.
Et puis après leur victoire contre l'Allemagne, les Bleus affrontent la Hongrie demain. Deuxième match de poule de l'Euro de foot.
70 000 supporters hongrois attendus dans le stade. L'ambiance s'annonce déjà brûlante. L'Italie littéralement, hein, puisqu'on annonce 31 degrés à Budapest. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 sur place. En toile de fond de cette rencontre, il y a aussi les relations de plus en plus tendues entre les dirigeants hongrois et l'Union européenne.
Oui, derrière la carte postale de cette magnifique capitale, les points de friction se multiplient entre Viktor Orban et ses homologues du continent. Atteinte à la liberté de la presse, loi jugée homophobe, discours sans nuance sur l'immigration, rapprochement avec la Russie, ce match arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Américo est guide touristique à Budapest depuis 20 ans. Il ne soutient pas forcément le tonitruant Premier ministre, mais il comprend sa politique.
Les Hongrois ont perdu leur identité. Orban essaie de les réveiller. Hey, vous êtes Hongrois, c'est bon d'être nationaliste. Quand vous dirigez la grosse entreprise qui est l'Union européenne, vous ne voulez pas que la petite vous résiste. Donc l'Europe de l'Ouest n'aime pas que la Hongrie regarde aussi vers l'Est. Notre futur est davantage à l'Est qu'à l'Ouest.
Membre de l'Union européenne depuis 2004, la Hongrie est farouchement attachée à son indépendance. Cet euro et ce match contre la France sont pour elle bien plus que du foot. Il en va de cette fierté nationale que Viktor Orban revendique. Seule condition, être bien meilleur que face au Portugal. Public déchaîné ou pas, les Hongrois s'étaient inclinés 3-0.
Jean-François Pérez à Budapest pour Europe 1. On vous retrouvera évidemment demain au commentaire du match aux côtés de Cyril de la Morinerie.
Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1, 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, rencontre d'un nouveau type. Sophie, Bertrand Chamerois, tiens, vous connaissez les points communs entre le dodo, le grand tigre à dents de sabre ou encore le quagga?
Ce sont des animaux
qui ont disparu.
Qui ont disparu, depuis que l'humanité est apparue, il faut le souligner, mais presque vivante grâce à l'exposition Respire et à ses lunettes de réalité augmentée. Réflexion sur l'extinction qui a débuté. Le président du Muséum d'Histoire Naturelle, Bruno David, invité du tête-à-tête Europe Matin. Vous êtes très forts tous les deux, vous m'avez impressionné. D'abord, la touche âme avec vous Bertrand dans un instant.
Mais une autre espèce qu'on croyait en voie de disparition, mais non, les boîtes de nuit vont rouvrir, donc ça se fête.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, on n'y croyait presque plus et pourtant, hier, Olivier Véran a confirmé la réouverture des boîtes de nuit cet été. This is the rhythm of the... Alors ok, aucune date précise n'a été donnée pour le moment, mais ça commence à ressembler au début d'une amorce d'hypothétique sortie de crise pour les professionnels de la nuit. Ça fait beaucoup d'incertitudes, mais c'est tout de même chouette. On a tous des souvenirs de discothèque, Mathieu, hein, ma petite sauterelle du Macumba. Des soirées mémorables, des instants d'insouciance suspendus, des parenthèses moites, des voix qui se cassent en hurlant nos chansons préférées, des acouphènes, des chorés maladroites et des minutes de panique à chercher ce foutu ticket de vestiaire. Alors, à propos de discothèque, ce matin, je voulais vous raconter l'histoire d'une boîte. C'est habitués, son histoire. Une boîte dans laquelle certains se rendent depuis des années, d'autres depuis des mois, tous avec le même entrain, la même envie. Le lieu est réputé, hein, même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds en ont déjà entendu parler. Et évidemment, c'est la vie qui veut ça, cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur, surtout dans un lieu comme celui-ci, mythique, avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant? Et si la boîte déménageait près de la RN22? Mais le DJ a passé des morceaux rassurants. Non, vous inquiétez pas, ce sera pareil. Alors ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer. Il semblait plus amer, la playlist aussi commençait à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face. Mais ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile. La soirée a pris une étrange tournure. Ils ont découvert qu'on pouvait avoir la gueule de bois sans même avoir picolé. Et ceux qui sont encore sur la piste demandent un autre morceau et ils montent le son. Les boîtes de nuit vont bientôt rouvrir et ça c'est chouette.
Merci Bertrand Chamerois. La Touche Âme, c'est tous les matins sur Europe 1 et ça vous fait du bien au réveil. Et puis c'est sur Europe 1 aussi à 10h, Bertrand Chamerois. C'est oui. Un autre nom, pardon, à chaque fois je l'oublie.
L'écran de veille.
L'écran de veille à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média. Oui, les boîtes de nuit, c'est un peu de cet esprit de réouverture qui nous anime en ce moment. Hier, on a évoqué la fin du couvre-feu, les masques sont tombés. Puis on a quand même cette idée de danser masqué sur les pistes, ça c'est encore autre chose. On en reparlera. Merci Bertrand Chamerois, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Pendant quelques minutes, nous allons rêver de nature, de faune sauvage. Nous allons nous éveiller aussi à la menace d'une nouvelle grande extinction, réfléchir à notre rôle, à notre place dans la biodiversité, nous, l'humanité. À l'occasion d'une exposition qui redonne vie virtuellement à des espèces disparues, mon invité, Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Le Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Alors sans doute l'un des plus beaux endroits de Paris, le Jardin des Plantes, le Muséum. On va beaucoup parler de cette exposition Respire entre naturalisme et technologie.
Revivre,
pardon. Parce que j'ai envie de respirer avec vous, c'est un lapsus. Mais d'abord, et c'est lié, bien sûr, vous êtes l'auteur du livre « À l'aube de la sixième extinction, comment habiter la Terre » chez Grasset. Bruno David, en quelques mots, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ce qu'on appelle une extinction de masse, et est-ce que c'est vraiment ce qui nous menace ?
Une extinction, c'est ce qui va éradiquer beaucoup d'espèces sur Terre. C'est à la fois global au sens que ça va toucher toute la planète. C'est relativement rapide, enfin du moins les précédentes à l'échelle des temps géologiques. Donc ça peut durer quelques centaines de milliers d'années. Et ça va toucher beaucoup de groupes différents d'animaux, de plantes, etc. C'est ça la définition d'une extinction. Et aujourd'hui, on est au début d'un processus qui ressemble beaucoup aux grandes extinctions qui ont affecté la biosphère dans le passé géologique de la Terre.
Ah, ça a déjà commencé ou c'est une épée de Damoclès ?
Non, ça a déjà commencé, c'est-à-dire qu'on est autour de 5% d'espèces éteintes, mais surtout on a beaucoup d'espèces qui se trouvent déjà en déclin, et ces déclins peuvent se terminer par des extinctions si on ne réagit pas, et c'est vraiment par les mêmes processus qu'ont fonctionné les grandes extinctions du passé, donc ça c'est quand même relativement inquiétant. Ce qui est plus rassurant, c'est qu'on est au tout début du processus, on est relativement au début du processus, et même s'il va très très vite, on peut réagir, il faut réagir maintenant, il ne faut pas tarder à réagir, c'est pour ça que je parle de l'aube de la sixième extinction. On a le temps de réagir, mais il ne faut pas traîner.
L'enjeu de la biodiversité, rien qu'en France, près d'une espèce sur cinq est menacée. On parle de faune, on parle de flore. Et je lisais une interview que vous avez donnée au magazine Géo. Vous, vous êtes plus inquiet pour l'humanité que pour la planète, finalement.
Oui, parce que la vie va continuer d'exister sur Terre, hein, que l'homme soit présent ou pas présent. Il faut avoir conscience que l'homme, nous sommes une espèce relativement fragile. On a l'impression d'être très protégé.
Et récente.
Et récente, 300 000 ans. On est bardé de technologies, on a de la pharmacopée, on arrive à se soigner, mais on voit quand même un tout petit virus qu'il arrive à faire, hein, qui n'est pas finalement si méchant que ça d'ailleurs. Donc ça devrait nous amener aussi un petit peu à réfléchir. Notre complexité nous rend fragiles et il faut qu'on fasse attention. On pourrait faire partie des espèces qui disparaissent lors de la prochaine extinction.
C'est pas rassurant.
C'est pas tout de suite. Hein,
c'est
pas
ça, oui. Ça prend quelques millions d'années parfois, d'ailleurs.
Ça peut aller plus vite que ça si on s'y applique bien. Mais bon.
Il faut que le message soit entendu aussi.
On a le temps
aussi.
De réagir, c'est ce que je veux dire.
Alors replaçons-nous dans cette biodiversité, réfléchissons à notre rôle, nos interactions, notre impact, notre place. L'exposition Revivre au Muséum, grâce à la technologie et à des lunettes de réalité augmentée, vous redonnez vie à 11 espèces disparues. On se retrouve donc nez à nez avec un quagga, un équidé entre le zèbre et le cheval disparu au 19e siècle, ou carrément face à un grand tigre à dents de sabre que nous chassions il y a 10 000 ans. Avant de paniquer, avant de s'alarmer, Bruno David, on est avec les enfants là et on se prend à rêver.
Oui, parce que on est dans cette galerie qui est une salle latérale de la grande galerie de l'évolution où les gens vont peut-être pas suffisamment d'ailleurs et je les invite vraiment à s'y rendre. C'est une salle magnifique, on a profité du confinement pour refaire tout l'éclairage des vitrines. On a fait le brushing de tous les animaux, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Malheureusement, ils correspondent beaucoup à des espèces éteintes ou des espèces en danger d'extinction. Et là, avec ces lunettes de réalité augmentée, ça permet de rester dans la salle, de toujours voir le décor de la salle et vient se superposer dans les lunettes des animations de 11 de ces espèces qui ont disparu et qui sont des animations particulièrement réussies. On voit par exemple, alors il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la tourte voyageuse. C'est un joli nom déjà, la tourte voyageuse ou pigeon migrateur. Il faut savoir que c'est une espèce de pigeon. Il y en avait plusieurs milliards d'individus en Amérique du Nord au 19e siècle. On a réussi à tous les tuer. Plusieurs milliards. Donc c'est dire un petit peu l'acharnement qu'on peut mettre.
Et parce que ça, il faut le souligner, parce que c'est un véritable voyage dans le temps que cette exposition, mais point de dinosaures, parce que quand on parle d'extinction, non. On pense aux dinosaures. Non, le point commun de toutes ces espèces, c'est d'avoir connu l'humanité.
Oui, toutes ces espèces ont disparu du fait de l'homme. Alors peut-être le tigre à dents de sabre, on peut s'interroger, mais en tout cas, toutes les autres espèces ont disparu du fait de l'homme, par la chasse, par une surpêche, par une surexploitation de ses ressources. On a un petit peu de tout, on a un insecte, on a des oiseaux, on a des mammifères, on a des animaux marins, on a une rhytine de stellaire, donc c'est une sorte de gros lamantin, un gros
8
mammifère
mètres.
Marin.
Ouais, lamantin, vous avez raison, je cherchais une comparaison, le lamantin c'est pas mal, c'est 8 mètres, 11 tonnes, chassé au 18e siècle en mer pour son huile et sa viande.
Dans le Pacifique Nord, oui, qui était chassé, il y en avait déjà plus beaucoup, et là on la voit nager dans la galerie en taille 1, donc c'est assez impressionnant, on a cet énorme mammifère marin qui vient vers nous. Et si je reviens à la tourte voyageuse, à la fin de l'exposition, elle vient se poser sur votre main. Vous tendez la main, elle vient se poser sur votre main.
Le mythique dodo disparu de l'île Maurice à l'arrivée des marins européens. On rêve, hein. Mais vous, Bruno David, vous alertez surtout sur les espèces communes. Aujourd'hui, il faut s'inquiéter pour les moineaux, pour les insectes, qui semblent comme ça insignifiants.
Oui, moi je m'inquiète beaucoup pour ce qui fait le socle un petit peu du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité sur Terre. C'est-à-dire c'est toute la biodiversité qu'on va trouver dans les sols, c'est toute la biodiversité microscopique marine, tout le plancton, qu'il soit végétal ou animal. Et dans les sols, ce sont les vers de terre, ce sont des petits insectes qu'on appelle des colamboles, ce sont des micro-organismes, ce sont tous les petits champignons qui sont à l'intérieur du sol, qu'on ne remarque même pas, qui sont simplement des filaments, mais qui sont essentiels à la vie des plantes. Si on enlève ces champignons, les plantes ne poussent plus.
Est-ce que ce n'est pas normal, naturel, cyclique, que des espèces disparaissent ?
Oui, c'est normal que des espèces disparaissent. En fait, on est dans un système où il y a un flux d'extinction et un flux d'apparition. Le problème, c'est que là, on est en train de provoquer des extinctions et des déclins d'espèces à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que le renouvellement possible de ces espèces. En gros, on fait disparaître des espèces en quelques siècles ou dizaines d'années, alors que l'émergence d'une nouvelle espèce dans une dynamique évolutive, en gros, ça prend 10 000 ans ou 100 000 ans. Il y a des cas plus rapides, mais globalement, ça met beaucoup de temps. Donc, vous voyez qu'il y a un différentiel de vitesse qui fait qu'on fait éteindre plus vite qu'on fait apparaître.
Et puis alors, je regardais, sans étaler de science, hein, les précédentes extinctions de masse. Alors, on parle d'activités météoritiques, d'activités volcaniques, de vagues de glaciation. Mais Bruno David, si vous alertez sur une sixième grande extinction de masse, il y en a bien eu cinq auparavant, mais les cinq n'étaient pas impactées par l'humain.
Voilà, c'est ça la différence. C'est la première fois que c'est une espèce qui est en cause, qui est à l'origine d'une extinction de masse possible.
Et on dit que la nature s'autorégule quand il y a un prédateur qui prend trop de place. C'est vraiment dans ce sens-là que vous estimez peut-être une menace pour l'humanité ?
La nature fonctionne toujours comme un jeu d'équilibre et un jeu d'interaction. Alors à partir du moment où il y a une espèce qui va trop dominer, elle va déjà se montrer comme étant la cible potentielle des pathogènes. C'est un petit peu ce qui nous arrive en ce moment. On est une espèce qui domine. Du fait de notre nombre, les pathogènes vont plus s'intéresser à nous. Alors c'est tout se passe comme si. Évidemment, le pathogène ne se dit pas « Tiens, au fait, je les ai comptés, combien sont-ils ?» Non. C'est pas comme ça que ça marche. Mais le fait même que nous soyons nombreux, la probabilité qu'un pathogène s'intéresse à nous est plus importante. Et puis du fait que nous soyons nombreux, nous allons pouvoir nous transmettre facilement le pathogène entre nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore un masque dans ce studio.
On a encore un masque dans le studio. Oui, les masques, c'est dehors qu'on les enlève pour l'instant. La pandémie, j'en terminerai par là, ce qu'elle a questionné peut-être sur nos activités, sur la déforestation ou la restriction finalement des espaces de vie de certaines espèces. Est-ce que vous croyez à la prise de conscience, tout simplement ?
Bah écoutez, ça dépend des matins, comment je me réveille. Il y a des matins où je me dis oui, on va peut-être prendre conscience que, et j'espère qu'au niveau politique, par exemple, on prendra conscience, ou même au niveau de chacun d'entre nous. Et puis quand j'entends certaines interviews où la seule envie qu'on ait, c'est de retrouver les chemins de la consommation et d'une consommation à outrance, qui finalement est aussi à l'origine de cette crise, par certains aspects, je reste inquiet parce que j'ai l'impression que la prise de conscience, elle n'est pas suffisante.
Entre le rêve et puis l'éveil, finalement, l'éveil, la prise de conscience, Bruno David, merci beaucoup d'être venu nous décrire cette exposition et la situation mondiale. La biodiversité, évidemment, enjeu majeur. Vous êtes le président, je le rappelle, du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et vous devez emmener les enfants voir. À partir de quel âge est-ce qu'on est bien avec ces lunettes de réalité augmentée ?
Il n'y a pas de problème sauf la taille de la tête, donc on préconise 8 ans.
Ok, 8 ans, très bien. Emmener les enfants, voir revivre.
Nous préconisons 8 ans et c'est franchement un voyage merveilleux.
Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Bruno David. Merci beaucoup. Il est 7h50. Vous êtes sur Europe 1 à suivre l'édito politique. Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le premier tour des élections régionales, dimanche, dans deux jours, va, selon vous, être une sorte de cahier de brouillon avant la présidentielle de l'an prochain ?
Ben oui, parce qu'à l'issue de ce scrutin, on aura un début de réponse à la plupart des questions qui vont déterminer les rapports de force en 2022. La première grande question qui sera tranché, c'est bien sûr, est-ce que le Rassemblement national peut franchir son plafond de verre
et remporter une ou plusieurs régions ?
Voilà, alors ça ne voudra pas dire évidemment que Marine Le Pen sera automatiquement élue, mais que les déplacements de voix en faveur du RN, qu'elles viennent de gauche ou de droite, sont désormais suffisants pour décrocher le pouvoir. Et parmi les éléments qui peuvent ou pas rendre cet événement possible, il y aura le comportement des adversaires du RN.
Par exemple, Renaud Muselier en région Sud ?
Voilà, ce sera la deuxième grande question. Comment faire barrage et arrêter cette force politique qui semble grossir inexorablement ? Faut-il mélanger les candidats de droite avec ceux d'En Marche ? Faut-il le faire avant le premier tour, comme ça s'est passé en PACA région Sud ? Les sondages sont peu enthousiasmants, à vrai dire. Alors faut-il plutôt le faire entre les deux tours pour fusionner les listes ? Ou au contraire, faut-il se retirer quand on n'est pas en mesure de gagner ?
Se retirer, c'est ce qu'on appelle le front républicain.
Oui, cette notion qui semble avoir pris brusquement un coup de vieux, parce que celui qui se retire du second tour, eh bien, il disparaît du paysage politique pendant tout un mandat. Pas simple à assumer l'idée que pour lutter contre un adversaire politique, on doit s'effacer complètement. Et d'ailleurs, c'est la troisième grande question, au profit de qui se retirer? C'est le dilemme de La République En Marche. Faut-il se retirer en faveur d'une liste de droite mieux placée et dans ce cas, donner un bon gros signal de droite à l'électorat Macron, question qui va se poser à François de Rugy en Pays de la Loire, ou faut-il se retirer en faveur d'une liste de gauche et offrir une victoire au Parti Socialiste, question qui va se poser en Bourgogne-Franche-Comté. Et là, ce n'est pas un signal très simple à assumer non plus. En tout cas, ce choix dira beaucoup de la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis des autres partis.
Et vis-à-vis de ses adversaires potentiels à la présidentielle.
Voilà, c'est la quatrième grande question. Est-ce qu'il fera retirer les listes La République En Marche pour faciliter l'élection de Xavier Bertrand ou celle de Valérie Pécresse. Et dans ce cas-là, contre quoi, comment essayera-t-il de monnayer tout ça? Ou est-ce qu'il essaiera au contraire de leur faire mordre la poussière au risque de faire gagner le parti de Marine Le Pen avec toutes les répercussions nationales que cela aurait? Dimanche et dans 8 jours, c'est vraiment le début de la bataille présidentielle qui va se jouer.
Votre édito politique tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours avant 8h, c'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Jérôme Fourquet, le politologue, directeur du département opinion de l'IFOP et auteur bien sûr de L'Archipel français aux éditions du Seuil. Et c'est Emmanuel Macron qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, j'écoutais attentivement Monsieur Cabrol. Et bonjour à Jérôme Fourquet, la star de l'IFOP, hein, justement en parlant de l'IFOP, j'ai sous les yeux les sondages pour le régional. Écoutez, il doit y avoir une erreur quelque part parce que je prends une branlée dans absolument toutes les configurations, toutes les régions. Non, mais ça vous fait rire, monsieur Bétou, je comprends, mais vous avez dû vous gourer quelque part, monsieur Fourquet, parce que partout, c'est soit l'humiliation, soit la déroute, soit la catastrophe. C'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Non, soyez conscients, j'ai quand même pris des décisions politiques courageuses. J'ai géré l'épidémie comme un véritable épidémiologiste. Vous en souvenez, j'ai même fait des vidéos avec McFly et Carlito pour que les jeunes m'adorent. Donc, oui, c'est très drôle, vous avez dû faire une erreur de méthodologie, mon cher Jérôme. Reprenez-vous, ça ne fait pas très sérieux pour quelqu'un de carré.
Non mais enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Laurent ?
Bonjour Marine Le Pen.
Oui, bonjour joli métisse. Écoutez, Monsieur Fourquet, n'en faites rien si vous entendez ces paroles de Monsieur Macron. Moi, je trouve excellent vos sondages, Monsieur Fourquet. Je suis sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Ils sont, je dirais, fabuleux ces sondages. Je les relis. Je vous confie que je les relis tous les soirs avant de dormir. Je me roule dedans. Ils sont formidables vos sondages. Bisous, bisous.
Nicolas Canteloup. On le retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de presse. Jérôme Fourquet, à 8h15, ce sera en direct ici dans le studio au micro de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Il est 7h57. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, avec la vague d'orage, la seconde qui est actuellement présente plutôt dans les régions de la moitié nord, hein, même s'il pleut dans le secteur de l'Hérault. Nous avons pas mal de pluie sur le Poitou-Charente, sur l'embouchure de la Loire et puis sur la Bretagne, en Normandie. Toutes ces pluies vont quand même disparaître ou en tout cas s'atténuer dans le courant de la journée. Sur toutes les autres contrées de la moitié nord, y compris sur Paris, ce sera une alternance de nuages éclaircis et d'orages. Des orages qui seront dans l'ensemble isolés et qui seront un peu plus présents sur le nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Je vais vite parce que je voudrais vous parler de demain et d'après-demain. Sachez que les températures sont en baisse partout sauf vers Lyon, Grenoble et Strasbourg, je l'ai dit et répété. Demain samedi, la France sous un ciel lourd, voilé, avec une tendance orageuse, mais une nouvelle zone d'orage apparaîtra dans le courant de la journée sur la Loire-Atlantique, de Brest à Saint-Jean-de-Luz. Et dimanche, cette zone d'orage, donc la troisième, eh bien va se répandre dans tout le pays. Samedi et dimanche, donc, seront des journées très chaudes encore dans l'Est. Et nous aurons, je termine avec ça, une semaine prochaine beaucoup plus fraîche.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde changer.